Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serov.
Donc vous êtes une montpelliéraine, un pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. À Montpellier, on peut vivre, tout à fait vivre, en ignorant, volontairement ou involontairement, un phénomène non pas anecdotique mais massif. Les centaines de personnes sans domicile fixe. Le recensement, lors de ce qu'on a appelé la Nuit de la Solidarité, du 24 mai 2023, on avait dénombré 2794 dans les rues, les bidonvilles, les squats ou les hébergements d'urgence. Pas loin de 3000 personnes alors identifiées, ainsi que cette enquête me l'a montré. C'est une enquête organisée par les chercheurs de la Maison des sciences humaines Sud, réalisée par des bénévoles et financée par l'État, le département et la métropole. Marion Lièvre, maître de conférence en anthropologie, l'avait présenté à ce micro il y a un an. Nous revenons aujourd'hui sur ce sujet, peu flatteur pour notre ville, notre bonne ville, en nous penchant sur les bidonvilles. Pour nous en parler, j'ai invité Thomas Henrion, que je remercie, de venir à Divergence. Thomas Henrion, au sein de l'association 14, vous êtes chargé de projet, coordinateur de l'opération Territoire Zéro Bidonville. Vous avez une formation de gestion de projets sociaux. Vous avez travaillé notamment à la Fondation Abbé Pierre. Et avant d'arriver à Montpellier, il y a trois ans, pour l'association 14. Ma première question, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce champ d'activité, cette activité professionnelle?
C'est toujours difficile de porter un regard un peu rétrospectif sur soi, je dirais. Mais peut-être en premier lieu... On pourrait dire que mon père, il est travailleur social.
Ah.
Donc peut-être que les chats ne font pas des chiens.
T'en mettais dedans quand t'étais petit.
Voilà, c'est ça. C'est difficile de pas citer ça comme début. Puis après, c'est vrai que moi, au fur et à mesure de mes études, la question qui me traversait, c'était à quoi je peux servir, comment je peux être utile, à quel endroit. Et si j'ai 35 heures par semaine à travailler, autant les mettre au service de l'intérêt général.
Très bien. Alors, avant de vous parler de vos activités, racontez-nous d'abord votre Montpellier comme simple habitant, à votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par mes invités, par petites touches successives, semaine après semaine. Quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement et auxquels vous êtes attaché, dont vous parlez à vos amis de passage, par exemple?
Ouais, alors peut-être la particularité, c'est que quelques mois après mon arrivée à Montpellier, je suis devenu papa. Donc mon Montpellier, c'est plutôt le Montpellier d'un jeune papa qui essaie de trouver des lieux pour sortir avec son fils. Donc intuitivement comme ça, j'ai envie de parler de tous les parcs, squares que la ville propose. Et puis moi, j'habite dans le quartier des Beaux-Arts Boutonnais.
Ouais.
Donc mon terrain d'action, on va dire, ça doit être 2 kilomètres autour de chez moi. Et donc ça va sur le bas de l'Écusson. Au niveau de la rue des écoles laïques, par exemple, et puis après, voilà, dans un petit rayon autour des Beaux-Arts, de Boutonnet. Donc voilà, on va dire dans la zone, c'est cet endroit-là. Et s'il faut citer des lieux un peu précisément, là, intuitif, comme ça, j'aurais envie de parler de la place des Beaux-Arts, assez naturellement, avec le square des Beaux-Arts juste derrière.
C'est devenu un lieu d'animation.
Voilà, c'est ça. Et puis je suis aussi vachement à vélo, donc à vélo le long du Lez, c'est peut-être une belle idée pour découvrir Montpellier. En tout cas, mon Montpellier, il se fait beaucoup à vélo et beaucoup le long du Lez notamment. Et puis en lieu peut-être un peu plus culturel, on pourrait citer le Moco Panacé, peut-être où je passe quelques après-midi par-ci par-là, ou le Altropisme aussi en lieu intéressant qu'a permis l'urbanisme transitoire.
Très bien. Alors, deuxième question avant de venir au gros du sujet. Donc, je l'ai dit, vous êtes Montpellierain depuis 3 ans. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise cette ville? Qu'est-ce qui la distingue par rapport à d'autres métropoles françaises que vous devez connaître? Est-ce qu'il y a un style, une manière particulièrement où le fait urbain se développe à Montpellier?
Alors, moi, je suis pas urbaniste, donc je vais plutôt poser un regard personnel là-dessus. Ouais, d'habitant, ouais, ouais. Bah, moi, le Montpellier, là où comment ça se distingue des autres villes où j'ai pu aller, c'est le, peut-être la taille de la ville. On va dire le format plutôt à taille humaine. Moi, j'ai surtout grandi à Paris, en Île-de-France, donc on va dire c'est surtout ça qui m'a sauté aux yeux en arrivant ici. Je parlais de vélo tout à l'heure, mais c'est un peu ça, quoi, la capacité à traverser la ville en 15 minutes de vélo, presque de part en part. J'exagère à peine, mais ça pour moi c'est assez fort. Et puis quand même assez récemment, la gratuité des transports, je pense que ça impacte la ville positivement et ça donne une nouvelle manière d'être en ville, voilà, pour ce bout-là.
Très bien. Alors venons-en au bidonville et à 14. Alors 14, d'abord, pourquoi ce nom et quelle est l'origine et la raison d'être de cette association?
Alors 14, pourquoi ce nom? Parce que on a chacun 14 os sur le visage et 14 phalanges dans la main.
Donc il faut être un médecin.
Donc c'est un peu l'alliance du savoir et du faire. En tout cas pour nous, c'est un peu ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à lier la réflexion à l'action. C'est un peu ça l'origine de l'association. Et en quelques mots, donc c'est une association qui est née en 2007, fondée par des étudiants en architecture qui avaient envie de faire de l'architecture différemment. D'emmener l'architecture là où elle n'est pas forcément, et ouais, surtout de faire avec les premiers concernés dans les projets. Et c'est, voilà, bon an, mal an, cette...
Voilà, le fil conducteur qui s'est perpétué depuis 2007.
Donc. Exactement.
Très bien. Alors, autre question pour qu'on comprenne bien. Au plan national, quelles sont les principales actions de 14 sur la base des principes fondateurs que vous venez d'indiquer?
Bon, on a trois gros champs d'action. On a un premier champ d'action qui relève de tout ce qui touche à l'accueil inconditionnel. Donc c'est comment est-ce que la ville accueille tout le monde. Donc la question des bidonvilles notamment, et comment la marche se retrouve au centre, comment voilà, on fait ville ensemble. Ça c'est un axe assez fort, un des trois axes de 14. Le deuxième axe, c'est autour du commun. Comment on arrive à faire commun, comment est-ce qu'on arrive à créer des lieux de rencontre, des lieux d'espace. Donc ça nous a permis... par exemple à Paris, de retravailler des places publiques notamment.
Donc une forme collective de réappropriation par exemple d'espaces publics et de travail sur l'aménagement de ces espaces publics, ça peut être ça par exemple.
C'est ça, mais en incluant tout le monde, c'est un peu ça la logique quoi, c'est de faire avec, de pas faire pour, et de dans des logiques toujours de participatif, de co-conception, de co-construction, c'est un peu ça l'ADN de l'association. Et enfin, on a aussi un axe assez fort autour de la transmission et de la formation. On est organisme Calliope, on avait jusqu'à peu un programme de formation à l'éco-construction bois pour des personnes assez éloignées de l'emploi. Donc on a aussi l'axe de transmettre et d'essaimer nos pratiques partout en France.
Alors, ici même à Montpellier, bon, en dehors des bidonvilles dont nous allons parler, est-ce qu'il y a d'autres interventions de ce type en cours à Montpellier ou en vue au-delà du champ dont vous avez la responsabilité?
Donc le cœur de notre action à Montpellier, en effet, elle est plutôt tournée vers les bidonvilles. Ceci étant dit, plus largement, la question de la captation de biens vacants, est-ce qu'on arrive à faire autour de l'habitat intercalaire dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc ça dépasse la question des bidonvilles ça embrasse plus globalement les questions de grande précarité. Et après, depuis voilà, 3 ans qu'on est sur le territoire, il nous est aussi arrivé de travailler, par exemple, avec la Croix-Rouge sur la conception de leur hyperlab itinérant. On a aménagé tout un camion pour la Croix-Rouge. Et là encore, la semaine dernière, on rencontrait une association Montpellier-Rennes pour voir si on pouvait les aider à travailler sur leur espace d'accueil et leur lieu d'accueil de femmes en précarité, en l'occurrence. Donc il y a toujours un angle quand même.
La plus-value que vous apportez, à la fois avec les compétences techniques notamment que l'association détient et les besoins qui se manifestent localement.
C'est ça. Nous, on parle d'architecture sociale et solidaire. Donc, c'est vraiment comment est-ce que les outils et l'approche des architectes peuvent être mis au profit de projets de lutte contre la précarité. Donc, c'est notamment les bidonvilles, mais c'est bien plus large que ça.
Alors, parlons donc des bidonvilles. Alors, je le rappelle aux auditeurs, dont certains se souviennent de la chose. La question des bidonvilles à Montpellier a pris une grande place dans les médias et dans le débat public à l'automne 2021. Pour 2 raisons, la présence d'un maire élu un an avant, Michael Delafosse, désireux de s'attaquer à cette question complexe, et l'arrivée d'un maire pendant l'été, d'un préfet de l'Hérault, Hugues Moutou, qui entendait, je cite, « nettoyer la ville et envoyer des bulldozers dans 4 bidonvilles pour les détruire, évacuer ceux qui l'occupaient, en semblant alors ignorer le soutien social engagé auprès des occupants par pouvoirs publics et associations. Entre-temps, la question du plus important de ces bidonvilles d'alors, celui de Celle-Neuve, 270 habitants, a été traitée avec la création du village de transition dans le quartier de La Rose, qui a permis pendant un temps à la plupart de ses habitants de bonnes conditions de vie. L'association Colia était chargée d'accompagner l'opération. Son responsable pour l'Occitanie, Christophe Cavard, est venu en parler. Racontez-nous votre Montpellier. Alors, aujourd'hui, Thomas Ariot, où en sommes-nous ? Lors de la nuit de la solidarité dont j'ai parlé tout à l'heure, 616 personnes, dont 306 mineurs, donc la moitié, vivant dans un bidonville, avaient été dénombrées à Montpellier et dans 6 communes voisines. Aujourd'hui, combien y a-t-il de bidonvilles et combien de personnes sont concernées ?
Aujourd'hui, sur la métropole, il y a...
À peu près, bien entendu.
Ouais, non, bah, y a une douzaine de sites. Donc, il y en a 9 à Montpellier. Et il y en a 3 entre Latte et Saint-Jean-de-Védas. Mmh. Et on est sur des effectifs d'environ 400 à 500 personnes qui vivent dans ces conditions.
D'accord. Alors, donc ça, c'est le résumé, je dirais, chiffré. Mais bon, parlons plutôt des humains ou des conditions dans lesquelles vous intervenez. Alors, vous l'avez un peu dit de manière générale dans les axes fondateurs de 14, mais sur ces questions de bidonville, quels sont les principes qui vous guident ? Puis on verra comment ça se traduit.
On a deux grandes casquettes, nous, 14, à Montpellier, sur la question des bidonvilles. Une plutôt à l'endroit de la coordination et de la facilitation, et une autre autour de projets opérationnels. Avec ces deux casquettes, c'est la même logique qui nous guide, c'est la dynamique multi-acteurs, c'est comment on fait ensemble. Et quand je dis faire ensemble, donc c'est autant avec les habitants des bidonvilles que les associations qui y travaillent, mais aussi avec les services de l'État, la ville de Montpellier. C'est vraiment
professionnel associé, je parle par exemple à un aménagement ou une rénovation intérieure à la livraison des logements, ça peut être ça aussi.
C'est ça. C'est vraiment se demander sur un territoire quels sont tous les acteurs qui peuvent apporter leur pierre à la résorption des bidonvilles, en l'occurrence. Nous, on travaille beaucoup autour de la logique de on regarde pas ce qu'on n'a pas, les manques, les besoins, mais plutôt les forces et les ressources qu'on a sur un territoire. C'est un peu cette logique-là qu'on essaye d'amener. Enfin, en tout cas, c'est notre vision, quoi, de manière de faire émerger des politiques publiques. Et du coup, c'est vraiment la dynamique multi-acteurs et ça se concrétise autour de d'un comité qui se réunit tous les 3 mois depuis 3 ans et qui réunit aujourd'hui 15 structures. Ah, donc, oui. Avec l'État, avec la ville,
des
la métropole,
des
associations. Oui. Tout à fait. Ça fait plus d'une trentaine de personnes qui se réunissent tous les 3 mois, avec chacun son regard sur la situation, ses ressources, ses possibilités d'y travailler, pour co-construire ensemble une stratégie de résorption des bidonvilles qui se veut efficace et innovante.
Donc, c'est bien ce travail de, comme dit Ariot, de management de projet, de capacité à rassembler ces entités qui ne sont pas toujours autour de la même table, que constitue donc la première partie de votre travail pour constituer l'équipe, entre guillemets, appelée à intervenir plus précisément sur telle ou telle opération.
C'est ça.
Dans le lot des 30, là.
C'est ça. C'est qu'il n'y a aucun acteur qui seul peut régler la situation des bidonvilles, ni à Montpellier, ni ailleurs. C'est vraiment le regard croisé, les compétences croisées de tous ces acteurs qui vont permettre d'obtenir des résultats. Donc nous, notre rôle là-dedans, c'est d'animer et de permettre que ces rencontres se fassent et qu'une stratégie puisse se co-construire progressivement. Donc on est dessus depuis à peu près 3 ans. Et à côté de ça, en parallèle de la construction de la stratégie, il y a la mise en œuvre opérationnelle, il y a aller réellement faire des projets. Et nous, 14, on porte, on va dire, 2 grands types de projets. Le premier, c'est s'attaquer à la question de la vacance immobilière. Et c'est un parti pris assez simple qui est, on sait qu'il y a des milliers de mètres carrés à Montpellier et ailleurs qui sont vides, qui sont vacants. Alors, ils sont pas vacants de manière structurelle pendant 10, 15, 20 ans parce qu'on trouve pas preneur, mais ils sont vacants pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avant un nouveau programme qui va intervenir dessus.
Oui, et nous, soit une rénovation, soit la vente.
C'est ça. Et nous, ce qu'on propose, c'est de mobiliser cette période qu'on dit intercalaire, qu'on vient intercaler un usage pour permettre d'offrir une nouvelle offre d'habitat pour les personnes qui vivent en bidonville, parce qu'il faut... enfoncer peut-être une porte ouverte, mais je le fais, ça va mieux en le disant, c'est s'il y a des bidonvilles à Montpellier ou en France, c'est pas parce que les personnes aiment vivre en bidonville, c'est parce qu'il y a une saturation complète des dispositifs d'accès à l'hébergement et au logement. Et du coup, par cette offre d'habitat intercalaire qu'on essaye de créer, cette offre d'habitat supplémentaire, ça va permettre de résorber les bidonvilles. Donc là, c'est le premier grand type de projet qu'on arrive à mener. Et en attendant, parce que là, on parlait d'une douzaine de sites, plus de 500 à 600 personnes qui vivent en bidonville, pendant ce temps, il y a aussi un enjeu à permettre l'amélioration des conditions de vie des habitants des bidonvilles directement sur les sites. Donc nous, on mène aussi des projets d'adduction d'eau potable, de sécurisation des réseaux électriques, de construction d'équipements sanitaires, de créer des conditions de vie un peu plus dignes, ou en tout cas un peu moins indignes, pour permettre aussi aux personnes de pouvoir se projeter plus facilement dans des parcours d'insertion.
Donc il y a une espèce de pragmatisme, c'est-à-dire en gros, bon, vous rappeliez que les besoins en logement sont énormes, l'attente pour le logement social est considérable. Mais là, il y a une espèce de manière de s'intercaler, mais après tout, comme au rugby, il y a une situation actuelle qui n'est pas acceptable, il y a une situation future qui est à penser à terme, et dans cette période intermédiaire, qui peut durer quoi, un an, deux ans, de cet ordre-là, j'imagine, qui n'est pas une solution définitive, mais qui constitue un progrès réel, tangible, dans les conditions de vie des habitants concernés. C'est à peu près ça.
C'est ça, et puis c'est de se dire qu'on se donne un an, deux ans, trois ans pour que les personnes puissent se poser, vivre dans des conditions plus dignes, puissent bénéficier d'un accompagnement social aussi dans ces lieux, et puissent progressivement se projeter vers la suite qui peut être du logement social classique, autre chose, du logement privé, pourquoi pas. Mais c'est avoir des conditions de vie qui permettent de pouvoir se poser pour se projeter vers l'avenir. Et ça, c'est facilitant quand on vit dans des conditions dignes.
Bien sûr.
D'où, voilà.
Bien sûr. Donc, c'est ce qu'on appelle, donc, permettre dans la situation d'avoir ce qu'on appelle un parcours résidentiel, c'est-à-dire d'avoir la capacité de prévoir une étape future dans des conditions correctes de vie quotidienne, de, je dirais, un peu moins stressée, un peu moins
c'est ça,
difficile.
Tout à fait. Et ce qui n'empêche pas d'observer aussi qu'il y a des personnes qui passent du bidonville au logement directement grâce à l'accompagnement social qui est fait par les associations du territoire. Et à ce titre-là, on peut en citer deux qui sont en charge de l'accompagnement social des habitants des bidonvilles, l'association AREA et l'association La CIMADE.
D'accord, qui interviennent donc à vos côtés.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple d'une opération, même s'il n'est pas aboutie, qui n'est pas à son terme, à Montpellier, qui est, où les bases de cette démarche sont en train de s'installer. Je pense à l'ancienne auberge de jeunesse, dont vous pouvez nous dire un mot, puisque vous vous penchez avec d'autres sur cet objectif, sur ce projet depuis quelque temps.
Alors oui.
On rappelle où elle est, la barge de jeunesse pour les.
Elle est dans l'Écusson, ouais, c'est ça, en face de la Coratrie, et du coup, ouais, en proximité avec l'Agora, la Cité de la Danse. Et bah, sur ce projet-là, on essaie de démontrer deux choses. Donc, d'une part, le projet prévu pour l'auberge de jeunesse, c'est de pouvoir accueillir quelques ménages qui vivent aujourd'hui en bidonville, qui sont en situation de grande précarité. Donc grâce au soutien de la ville de Montpellier qui est propriétaire de l'auberge de jeunesse et qui la met à disposition.
Fermée depuis des années.
Fermée depuis au moins 6 ans et vide depuis ce moment-là, dans des conditions assez dégradées, avec un bâti assez dégradé. Et du coup, lors du conseil municipal de décembre, a été votée la mise à disposition de l'auberge pour une durée de 2 ans et demi. Un budget aussi permettant de la réhabiliter. Pour l'association 14, et du coup, très prochainement, on va pouvoir entamer des travaux dans l'auberge de jeunesse, notamment des travaux en chantier participatif pour lequel on aura besoin de beaucoup de bénévoles et de personnes souhaitant aider. Et l'objectif, c'est de pouvoir héberger entre 8 et 10 ménages qui vivent aujourd'hui en bidonville, à la rue, en tout cas en précarité, des familles avec enfants. Donc ça, c'est d'une part, une partie du projet, c'est celle-ci. Donc ça répond vraiment à ce dont on parlait tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à mobiliser des biens vacants pour permettre de créer une offre d'habitat supplémentaire. Mais c'est pas tout, parce qu'on sait que ce projet va pouvoir durer que un an, deux ans, et que derrière, il y a aussi un enjeu plus large de trouver des solutions de logement sur le territoire. Et donc pendant la durée de 2 ans, il y a un collectif d'acteurs qui sont en train de travailler au rachat de l'auberge de jeunesse, pour réussir à créer du logement très social au cœur de l'Écusson.
Donc, on voit bien la démarche. Alors, votre action s'inscrit, on l'avait évoqué, dans une problématique plus générale, avec d'un côté beaucoup de personnes à la rue, de l'autre beaucoup d'immeubles vides. Cette situation scandaleuse vous a conduit le 21 janvier dernier, avec 10 autres associations, à organiser une marche du vide à Montpellier. Quels étaient les objectifs et les modalités de cette initiative originale ?
Alors la marche du vide, c'est un concept qui est né en Belgique, par le Rassemblement Wallon au droit à l'habitat. Et c'est une manière un peu ludique de regarder la ville différemment, par le prisme du vide. Donc c'est comment est-ce qu'on se balade dans l'espace public à la recherche de signes de la vacance pour dénoncer la question de la vacance immobilière et interpeller sur le nombre de personnes qui y vont à la rue et surtout les solutions qui existent pour mobiliser cette vacance. Et donc à Montpellier, ça fait 2 marches du vide qu'on organise, le 14, une fois en partenariat avec l'Université Paul Valéry et le Master d'Urbanisme, cette deuxième fois plutôt à destination de la presse et des journalistes. Et l'objectif, donc, c'est à la fois de se rendre compte par soi-même du nombre de bâtiments vides qui existent dans la ville, mais aussi des solutions qui existent ou qui ont existé pour les mobiliser. On a pu entendre un promoteur immobilier.
Des cas de figure différents.
C'est ça, on a pu un promoteur immobilier qui est venu nous expliquer comment il a mis à disposition un immeuble dans le cœur de l'Écusson pendant un an à des familles, enfin à des associations qui ont pu héberger des familles qui vivaient à la rue. On a parlé aussi de mobilisation citoyenne, de réquisition citoyenne, avec l'Utopia qui est venu nous parler du squat des archives qui est dans le quartier des Beaux-Arts, qui pendant plusieurs années ont hébergé des centaines de personnes.
C'était un temps très important de mobilisation et d'engagement sur ces questions.
Tout à fait. Donc c'est pour montrer un peu la diversité de manière de réussir à mobiliser ces biens vacants et comment ça répond réellement à cette situation de mal logement et de lutte contre le sans-abrisme.
Donc avec des cas de figure, des situations différentes auxquelles la démarche que vous expliquez permet de répondre, je dirais, de manière spécifique. La stratégie dont vous parliez, c'est ça, c'est d'identifier une problématique, de l'analyser et de trouver les voies et moyens pour la traiter.
Tout à fait. Et tout à l'heure, on disait que nous, on essaie de regarder les ressources d'un territoire plutôt que les manques. Et les milliers de mètres carrés qui sont inexploités, tout le foncier vacant, c'est une ressource qu'on peut mobiliser. Donc c'est comme ça qu'on le voit. Et du coup, l'appel qu'on a fait à travers cette conférence de presse et cette marche du vide, c'est un appel autant aux collectivités, à l'État, qu'aux propriétaires privés, pour dire que si vous avez des biens vacants, inexploités, et que on arrive à avoir une perspective d'au moins un an dessus, nous, aujourd'hui, à Montpellier, on sait les mobiliser, ces biens. On a 11 associations qui ont des compétences complémentaires, qui vont de la gestion locative à l'accompagnement social, à la capacité de diagnostiquer et de réaliser des travaux. On a des financeurs aussi avec nous pour vraiment activer ces biens. Donc aujourd'hui à Montpellier, on a entre guillemets tout ce qu'il faut pour pouvoir réellement s'attaquer à la vacance et héberger concrètement des personnes sur des temps de 1, 2, 3 ans, autant de temps que les biens sont disponibles.
Donc du coup, le rassemblement de ces compétences et de ces moyens financiers, humains, techniques, et donc déterminant, là, plutôt que de se battre sa courbe, d'avoir un propos simplement alarmiste, sans dégager des solutions et dégager l'horizon, il y a cette approche-là qui vous permet d'avancer réellement.
C'est une approche très concrète, quoi. Très concrète, avec autant les associations, mais aussi les institutions. Donc on parle de l'État, mais il y a les services de l'État qui nous accompagnent et qui financent beaucoup d'actions de mobilisation de biens vacants, d'habitat intercalaire. Là, quand on parlait de l'auberge de jeunesse, les travailleurs sociaux qui vont accompagner les personnes pendant les deux ans et demi d'occupation, ils sont financés par de l'argent public et de l'argent de l'État. À côté, il y a aussi la mobilisation et l'engagement des villes, et dont la ville de Montpellier, qui a une démarche assez proactive sur la résorption des bidonvilles et sur ce qu'on appelle l'habitat intercalaire. Nous, ce qu'on a envie de dire malgré tout, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort s'il y a encore un peu plus d'engagement.
Très bien. Alors, lors de cette marche, longtemps a été présentée une charte qui s'appelle la charte du collectif habitat intercalaire de Montpellier, qui fixe un certain nombre d'objectifs ou de demandes. Est-ce que vous pouvez les présenter à grands traits, en tout cas celles qui vous paraissent les plus déterminantes pour que, comme vous l'indiquez, on puisse avancer sur ce sujet.
Ce qu'il faut commencer par dire, si on s'est mis en tracteur associatif à rédiger une charte, c'est déjà parce qu'il y a des projets d'habitat intercalaire qui existent à Montpellier. Il y a plus d'une centaine de personnes qui sont aujourd'hui hébergées notamment par la ville de Montpellier, avec la mise à disposition de biens qui lui appartiennent et qui permettent du coup une stabilisation un peu des ménages, du parcours et de se projeter vers la suite. Donc les 11 associations actives à Montpellier, qui sont 100% des associations qui sont actives sur l'habitat intercalaire, sont réunies en collectif et ensemble ont rédigé une charte qui permet de défendre un certain nombre de choses. On pourrait en citer quelques-unes comme l'enjeu très fort de l'accueil inconditionnel, et c'est de s'assurer par exemple que ces lieux, cette nouvelle offre d'habitat qui est créée sur le territoire, elle est vraiment accessible à tout le monde, notamment aux personnes en situation irrégulière. Ça, c'est un enjeu.
Cette situation irrégulière, c'est contrairement, je dirais, à des mesures en cours ou en vue là, qui limitent les droits des étrangers.
Et justement, les dispositifs un peu de droit commun, plus ça va, plus ils se ferment aux personnes en situation irrégulière. Donc sur cette entrée un peu d'habitat intercalaire qui est assez nouveau, ça date de 2018 avec l'article 29 de la loi Elan, il faut au moins qu'on se bagarre et qu'on s'assure que ces personnes en situation irrégulière puissent accéder à ce nouveau dispositif qui est un peu en train de se créer. Ça, c'est peut-être un des premiers enjeux. Et le deuxième, c'est de... Bah, c'est de réussir à dire que, certes, les personnes sont à la rue, certes, c'est mieux que rien, mais il y a quand même un vrai enjeu à garantir des conditions de vie dignes et que les biens mis à disposition et les biens qu'on arrive à capter qui vont permettre l'hébergement des personnes en précarité, ils garantissent des conditions de vie dignes,
oui,
donc de l'accès à l'eau, à l'électricité, de la sécurité des personnes, etc. Et ça, bah, nous, en plus, 14, on est des architectes, donc c'est un point sur lequel
c'est
on...
C'est pas simplement un toit, bien entendu, c'est plus que ça, bien sûr.
Exactement.
Alors, vous l'avez évoqué, alors si parmi les auditeurs, certains souhaitent être bénévoles dans les chantiers participatifs là, que vous avez évoqués, ou au contraire, parce qu'on a bien compris que c'est intéressant d'identifier des possibilités, qui ont à proposer des biens vacants parmi nos auditeurs et auditrices, comment peuvent-ils vous joindre ?
Eh bien, donc l'adresse de contact, c'est contact@14.cc, donc contact@14.cc. Et du coup, l'appel, il est vraiment de se dire, s'il y a des propriétaires qui ont un logement, une maison, même pas en état parfait, mais qui savent qu'ils ont au moins 2 ans devant eux sans d'utilité ou en tout cas sans de projet réellement sûr dessus, nous, on a les conditions vraiment de sécuriser l'occupation et qu'il y ait une convention avec des associations intermédiaires et s'assurer que le bien soit réhabilité légèrement pour permettre l'accueil des personnes et surtout rendu à la date indiquée. Donc là, c'est un vrai enjeu, un vrai appel de réussir à avoir des propositions de biens, car on sait que c'est possible et nous, on sait les mobiliser. Et à côté de ça, sur ces temps justement de mobilisation, on fonctionne beaucoup par le biais de chantiers participatifs et d'efforts et d'énergie bénévole. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de se projeter sur... donner un coup de main pour cette dynamique-là de lutte contre le sans-abrisme, et qu'ils suivent 14 sur les réseaux sociaux, où il y aura des appels à bénévoles très bientôt, notamment pour l'auberge.
Donc, les propriétaires, ils retrouvent leur bien au bout de cette temps-là, donc du coup, leur bien, il y a une plus-value pour le coup, puisque le bien a été plus ou moins rénové et aménagé, hein, donc c'est une opération qui peut être intéressante, je veux dire, de leur seul même point de vue, au-delà de l'intérêt général ou du bien commun qui a été atteint. Alors, dernière question, Thomas Arion. Quelle est l'idée reçue, l'idée fausse sur les bidonvilles que vous rencontrez souvent, qui vous agace, que vous efforcez de contester ?
Alors, il y en a plein. Je sais pas laquelle choisir. Peut-être la première qui me vient comme ça et qui est quand même le cœur du sujet, c'est de penser que s'il y a des bidonvilles, c'est parce que les personnes, c'est un mode de vie, c'est culturel. C'est que ça leur plaît de vivre en communauté sous des tôles et que c'est ça l'explication générale. Ouais. Mais c'est un vrai sujet hein, de réussir à déconstruire ça, de dire qu'il n'y a pas des besoins spécifiques des personnes qui sont roms ou identifiées comme roms ou qui viennent d'Europe de l'Est, où on se dit c'est leur mode de vie et donc il n'y a pas grand-chose à y faire.
Si c'était culturel.
C'est ça.
Et pas simplement économique.
C'est poser ce regard culturaliste sur la situation des bidonvilles, ça fait un grand mal. Et il y a même des acteurs du secteur, alors pas à Montpellier, mais on en croise ailleurs, qui ont aussi un peu ce regard-là, quoi. Et nous, ce qu'on arrive à voir, c'est que quand il y a un accompagnement social qui est fait sur le temps, avec on prend en compte un peu la temporalité des personnes, la temporalité des ménages, on se rend compte que pour quasiment la totale, c'est l'orientation vers du logement classique
En commençant par les écouter, par leur parler.
Nous, c'est aussi un peu au cœur de notre approche chez 14, c'est qu'on fait rien pour, on fait tout avec, et c'est que quand on conçoit un projet, c'est pas nos architectes qui conçoivent le projet, c'est avec les personnes, on le co-conçoit, et pareil sur la partie chantier, construction, on co-construit ensemble les solutions qui vont être adaptées aux personnes.
Très bien, alors rappelez l'adresse mail pour finir.
Donc c'est contact@14.cc.
Merci beaucoup Thomas Arion.
Merci à vous.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Bah, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.